au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve François-Pierre Nizeri.
Chers auditeurs de Canal Académie, bonjour et bienvenue dans l'émission Au fil des pages, rubrique revue littéraire, pour parler aujourd'hui de services littéraires, dont le numéro 1 vient de sortir et que je dois dire, je n'arrive pas vraiment à qualifier de revue, tant elle échappe radicalement, et j'utilise ce mot à dessein, tant elle échappe radicalement à tous les critères qui d'ordinaire définissent une revue littéraire. Ce n'est pas une revue en forme de livre, ce n'est pas un magazine, vraiment. Alors peut-être, me suis-je dit, peut-être est-ce une feuille. Pas une feuille de chou, bien sûr, mais plutôt une feuille au sens où on l'entendait autrefois, celui d'imprimer à caractère pamphlétaire. Non pas que les textes qui y figurent puissent tous, à proprement parler, être qualifiés de pamphlets. Mais il y a, en tous les cas, dans les 8 pages de cette feuille mensuelle, une liberté de ton. Et parfois même une férocité.
Le ton, c'est bon.
Qui tranche, c'est le moins qu'on puisse dire, avec la langue de bois littéraire qui nous assène régulièrement ses vérités, celle que commande aujourd'hui une production littéraire davantage dominée, faut-il le dire, par des intérêts commerciaux que par la qualité de l'écriture. Alors pour évoquer cette tentative qui me paraît nouvelle et salutaire de porter un regard vraiment littéraire sur la littérature, et même s'il y a des questions qu'on peut se poser sur ce regard, j'ai le plaisir d'accueillir dans nos studios François Cereza, directeur de la rédaction de Service littéraire. François Cereza, bonjour.
Bonjour.
François Cereza, vous êtes écrivain.
Oui.
Et c'est important de le souligner d'entrée de jeu. On verra tout à l'heure pourquoi. Vous êtes l'auteur d'une vingtaine de romans, dont notamment, j'en cite un en particulier, « La Vénus aux fleurs », pour lequel vous avez obtenu le prix Paul Léoto, et bien d'autres, pour lesquels vous avez obtenu d'autres prix. Et puis, parmi ceux que vous avez publiés, je dois mentionner également les fameux Cosette et Marius, qui se veulent une suite des Misérables de Victor Hugo et qui ont provoqué un léger scandale et même un procès. Bon, on n'en parlera pas,
ce n'est pas l'objet
de cette émission. Alors, vous êtes également, il faut le rappeler, chroniqueur littéraire et aussi de télévision et de sport. Au Figaro Madame et au Figaro, et vous êtes ancien rédacteur en chef au Nouvel Observateur. J'ajoute que vous êtes né en 1953 à Cannes, la ville du festival, et que votre jeunesse a été une sorte de festival des métiers. Il est impossible de citer tous ceux que vous avez exercés parallèlement à vos études de droit, de philosophie et de médecine, mais il faut dire quand même, vous avez été maçon, vous avez été menuisier, vous avez été chauffeur de maître, vous avez été mannequin, etc. Je ne les cite pas tous parce qu'il y en a trop. Alors voilà, c'est quand même un départ dans la vie qui me paraît intéressant de souligner. Alors ma première question, François Cereza, ne vous étonnera pas. Qu'est-ce qui vous a pris en décidant de créer cette revue? Qu'est-ce qui vous a poussé à pousser ce cri de colère? Car je crois que c'est quand même bien ainsi qu'on peut qualifier et apprécier votre démarche. Et je ne peux pas manquer de citer les derniers mots de votre éditorial numéro 1. Quitte à avoir de faux amis, mieux vaut se faire de vrais ennemis. La critique littéraire, François Cereza, a-t-elle donc besoin d'ennemis?
Non, je ne crois pas que la critique littéraire a besoin d'ennemis. Je crois que la critique littéraire a besoin de polémiques. Je crois que la critique littéraire a besoin de ne pas être sur des rails, a besoin... Je vais vous dire une chose, parce que ça me vient évidemment en tête. La critique littéraire existe depuis toujours. Si on pense par exemple à Voltaire par rapport à Rousseau, qui n'était pas tendre l'un pour l'autre, c'était épistolaire à l'époque, puisqu'il n'y avait pas de gazette, mais c'était déjà de la critique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un écrivain, finalement, est peut-être plus habilité à critiquer un autre écrivain parce qu'il sait ce que c'est. Voilà, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, quand vous disiez tout à l'heure un cri de colère, bon, je vais nuancer, ce n'est pas un cri de colère parce qu'il y a un côté amusement, c'est-à-dire dans ce journal, je l'ai fait parce que pendant 30 ans, j'ai été dans la presse et depuis quelques temps, j'ai noté qu'il y avait une espèce de consensus incroyable dans les journaux qui fait que tout le monde monde dit à peu près la même chose, on a l'impression que les critiques se copient l'un sur l'autre. Ce qui fait que si on dit du bien d'un livre, tout le monde dit du bien de ce livre. Moi, je me suis dit, avec les amis que j'ai, parce que, évidemment, depuis 20 ans, comme vous le notiez tout à l'heure, vous me faisiez remarquer, j'ai écrit quand même une vingtaine de livres, donc on se fait des amis. Moi, les amis que je me suis fait, ça a été... D'abord, j'ai eu un père spirituel auquel je voudrais, dont je voudrais parler, qui s'appelle Louis Nucera, et un autre qui s'appelait Alphonse Boudard. Donc, ce sont un peu eux qui m'ont mis le pied à l'étrier. J'avais écrit, comme tous les adolescents, de la poésie, des poèmes que j'avais publiés, d'ailleurs, aux éditions Saint-Germain-des-Prés. Mais disons que mon premier livre, qui s'appelait « Le cimetière des grands-enfants », c'est grâce à Louis Nucera qu'il a été édité. Et c'est d'ailleurs dans la maison d'édition dans laquelle il travaillait, qui était la Thèse à l'époque. Voilà. Donc, j'ai appris avec ces gens-là ce qui déjà était en moi dans mes goûts littéraires, parce que je lis depuis toujours. Quand je vois mes enfants qui ne lisent pas, je me demande comment ça se passe dans la tête d'adolescents qui finalement maintenant sont branchés uniquement sur l'ordinateur.
Ça peut venir.
Oui, bien sûr. Et donc, grâce à ces gens, je me suis retrouvé en famille. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que quand on aime les mêmes écrivains, ça peut aller de Calais à Céline, en passant par les esprits caustiques, justement, de Voltaire, et puis Montesquieu et Diderot, etc. Donc, tout le 18e, romantique peut-être un peu moins, sauf avec quelqu'un comme Stendhal. Donc, il y a une espèce de famille. Donc, les familles, on s'y retrouve. Et vous savez ce que ça fait, ça ? Ça fait des réseaux d'amitié. Or, actuellement, pour en revenir à votre question principale, je trouve qu'il y a beaucoup plus de réseaux d'intérêt que de réseaux d'amitié. Et ce journal que j'ai fait, que j'ai créé, est avant tout un réseau d'amitié. Tous les gens qui y sont pratiquement tous des amis. Et ils ont tous eu envie de faire la même chose quand je leur en aurais parlé.
Et donc, les amis ont forcément des ennemis.
Et voilà. Vous savez, c'est aussi une chose. Vous savez qu'on a quand même tendance à être amis avec tout le monde dans ce milieu. Or, ce n'est pas vrai. Je dirais que la chose importante, c'est Albert Camus qui le disait, c'est de dire non. Ce n'est pas de dire oui à tout. Or, en ce moment, on est dans une période, dans une politique sociale, tout ce que vous voulez, économique, où on dit oui à tout. Moi, je trouve ça salutaire de dire non. Et il y a d'autres hommes, grands hommes politiques qui ont osé dire non, comme vous savez.
Alors, on peut dire non, mais aussi on peut dire non autrement. Je veux dire, comment ? Éventuellement, on peut dire non aussi. Dans le prolongement de ma première question, est-ce que vous n'avez jamais été tenté pour exprimer votre, bon, pas dire votre colère.
Non,
votre,
c'est pas colère, c'est l'ironie, disons.
Votre ironie. Est-ce que vous n'avez jamais été tenté par le silence ? Est-ce qu'on doit toujours démolir un livre qu'on n'aime pas ou un auteur qu'on ne considère pas comme un véritable écrivain ? Autrement dit, est-ce que la critique littéraire ne... Attention à cette question qui peut être nous entraîner dans plein de pistes. Est-ce que la critique littéraire ne peut pas finalement servir, je dis bien servir, les intérêts de ceux qu'elle veut éreinter ? Est-ce que le silence, souvent, n'est pas la bonne réponse ?
Écoutez, il y a deux choses dans ce que vous dites. La première chose, c'est parler de moi en bien et en mal, mais parler de moi, comme vous savez. Hein. C'est-à-dire que ça, en effet, quelqu'un sera toujours content qu'on parle de lui, qu'on fasse des articles sur lui, si on dit du bien ou si on dit du mal. Mais la deuxième chose, c'est que le silence, c'est sage, vous avez raison, mais ce n'est pas remarqué. On est dans une période qui est médiatisée à fond. Donc, je veux dire, le silence, c'est quelque chose qu'on ne remarquera pas et qu'on ne remarque pas. Si on prend les écrivains de la rentrée, vous savez qu'il y a quand même 720 livres qui ont été publiés et on en a parlé de 30 ou 40. Et puis, je vais vous dire une chose, c'est toujours les mêmes dont on parle. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes et en général, on en parle en bien. Bon, il y a eu quelques éreintements dans la presse, par exemple. Je pense à M. Philippe Solers. Mais pour la rentrée littéraire, tout le monde, comme un seul homme, a dit « Olivier Adam, c'est formidable ». Enfin, je ne veux pas citer de nom, mais sur les 30 livres, vous savez bien, d'ailleurs, on les a retrouvés sélectionnés pour les Grands Prix littéraires d'automne. Ce sont toujours les mêmes. Or, nous, dans ce journal, je ne dis pas qu'on prend le contre-pied systématique et qu'on va dire « puisqu'ils ont dit du bien, on va en dire du mal ». Non, on dit simplement une chose, c'est qu'au lieu de...
Vous dites du bien de Modiano.
Voilà, oui, mais on peut très bien ne pas aimer Modiano. Moi, je me souviens très bien d'Angelo Rinaldi qui, une fois, avait éreinté Modiano. Hein, donc, Modiano n'est pas intouchable non plus. Quand on fait un livre, vous êtes bien d'accord qu'on s'expose à la critique et qu'on s'expose, c'est quelque chose de public. Donc, si on fait un livre, si c'est pour remporter l'adhésion, il y a un problème. Vous évoquiez tout à l'heure, moi, le livre que j'avais fait, Cosette et Marius. Vous pouvez être sûr qu'en faisant la suite d'un livre comme Les Misérables, vous allez vous exposer à des problèmes. Et si j'avais dit... Oh, bah, comment ça se fait? Moi, j'ai fait un beau travail, j'ai écrit 1000 pages, je me suis documenté. Comment ça se fait qu'on n'est pas gentil avec moi? C'est comme ça. Ou alors, autrement, il ne fallait pas faire la suite des Misérables, et il fallait continuer de faire de la menuiserie ou de la maçonnerie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand on écrit un livre, on s'expose forcément à la critique. Ce que je reproche maintenant, c'est, pour aller dans le sens de votre question avec le silence et toutes ces choses-là, ce que je reproche à la critique, c'est qu'elle est trop bien-pensante et complaisante. Ce n'est pas parce que la mode consiste à telle chose qu'il faut forcément épouser telle chose. On n'ose pas se rebeller, on n'ose pas dire non, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est encore une fois, c'est une espèce de consensus comme ça et qui est dans une sorte de goulette d'étranglement et qui conduit à quelque chose de complètement factice. Alors je trouve que cette littérature, et malheureusement, je vous parlais des 700 livres, parmi les 700 livres dont on ne va pas parler, ou les 600 en tout cas, si ça se trouve, il y avait des livres qui étaient vachement bien.
Certainement.
Qui est-ce qui va en parler? Vous voyez, c'est le silence. Dit, vous... le silence, il est là. C'est là, il est là, le
bien
silence.
Bien sûr.
Et nous, vous avez vu, ce journal, c'est un petit journal, il y a 8 pages, comme le canard enchaîné. Ce sont des amis qui font ça. Financièrement, il n'y a pas grand-chose. Pour ainsi dire, il n'y a rien. Il n'y a pas un gros groupe, il n'y a pas un BDG qui est derrière, un industriel qui est bourré de flouze. Donc, on est obligé de se débrouiller. Et c'est pour ça qu'on ne dit pas ce qu'il faut penser, mais on dit ce qu'on pense, ce qui fait une moyenne avec les autres.
Très bien. Alors, quand on pense aussi politique. Alors, on se serrait ça, je me sens obligé quand même de vous poser la question sur la politique, parce que j'ai noté quand même, avec beaucoup d'intérêt, mais aussi quand même avec un peu de curiosité, que vous établissez dans votre premier numéro, bon, je veux dire un lien, peut-être le mot est un peu fort, mais je ne parle en tout cas pas de flirt, parce que ça serait carrément grossier. Avec la politique, le politique. Vous, et quand je dis vous, c'est votre journal, c'est pas vous-même, personnellement. Vous parlez beaucoup, dans ce numéro 1, du président de la République. Et vous en faites même la une de votre numéro 1. Vous ne ménagez pas, c'est le moins qu'on puisse dire, Yasmina Reza et son livre sur le président.
Il était mauvais.
Bien.
Hein.
Alors, est-ce que vous ne craignez pas dans cette démarche une certaine forme, malgré tout, de politisation, est-ce qu'il y a un risque ou pas de politisation de la critique littéraire au détriment éventuellement de la littérature elle-même, qui peut être engagée et qui doit même être engagée, mais qui doit aussi nécessairement savoir prendre ses distances avec la politique?
Vous êtes en train de dire, comme on disait en 68, tout est politique. C'est-à-dire la façon dont on mange, la façon dont on écrit, tout est politique. Non, ça je ne crois pas. Je n'ai pas ni à expliquer ni à justifier, si vous voulez, mais ce journal est un journal d'esprit libre. La liberté, pas forcément libertaire, bien sûr. Nous, on s'était posé la question avec quelques amis, Bernard Morlino, qui a été à Globe, Éric Neuf, qui est au Figaro, Frédéric Vitou, qui est au Nouvel Observateur, donc vous voyez, ça part un petit peu dans tous les sens, François Bott, qui est au Monde. Voilà. On s'est demandé, mais bon, parce qu'on n'a plutôt pas d'antipathie pour M. Sarkozy, et au contraire même d'ailleurs, avec un discours un petit peu nouveau, justement, qui rompait avec tout ce que l'on vient de dire précédemment, c'est-à-dire cette espèce de politiquement correct qui est vraiment comme une sorte de gelée de veau. On met le doigt dedans, ça se remet exactement de la même façon. Donc, on s'est dit, tiens, mais ce type-là qui est là, qui a s'agité toujours, il va être présent à droite et à gauche et tout ça, mais est-ce qu'il lit celui-là? Hein? Pourquoi on a fait ce choix? Parce que c'était un premier numéro qui sortait, qu'un premier numéro, lorsque un monsieur a le vent en poupe, et c'est M. Sarkozy qui avait été élu 3 mois ou 4 mois auparavant, on se dit, pour se faire connaître, on fait une une sur Sarkozy plutôt que sur Tartampion. Vous voyez ce que je veux dire?
Tartampion, c'est vrai que...
Oui, Tartampion, bon, voilà. Et puis, bon, franchement, je ne pense pas que Sarkozy soit un passionné de livres. Mais il dit que quand même, bon, il a lu Voyage au bout de la nuit... Et le livre d'Albert Cohen, Belle du Seigneur. Donc, un coup à droite, un coup à gauche, comme ça, il est tranquille. Voilà.
Aussi, c'est
comme le dessin, d'ailleurs, de Viaz l'exprimait tout à fait. Avec ça, je suis couvert des deux côtés. Bon, et puis il dit qu'il aime bien Les Bienveillantes, qui est le livre de l'année dernière. Il ne nous surprend
pas. Parce qu'on n'en a pas parlé dans la presse.
Voilà, il ne nous surprend pas. Je veux dire, en nous disant, par exemple, « Ah, j'aime bien Charles-Louis Philippe, j'aime bien Marguerite Audoux, j'aime bien Henri Calais, j'aime bien Antoine Blondin, j'aime bien Jacques Laurent. » Je ne sais pas, vous voyez, là... Il nous parle des choses qui sont quand même les poids lourds, quoi. C'est-à-dire Céline, tout le monde a entendu parler de Céline, on sait que c'est pas une marque de chaussures, quoi. Enfin, quand on fait de la littérature.
En principe.
Voilà. Oui. Et Albert Cohen aussi, grâce au formidable livre qu'il a fait sur sa mère, bien sûr.
Donc, je recommande quand même aux futurs lecteurs, je dis bien aux futurs parce que vous avez déjà des lecteurs, mais les futurs lecteurs qui ne connaissent pas encore Service littéraire, de lire la première page donc, de votre numéro 1, parce que finalement, ce qui parle le mieux dans cette une, c'est le dessin, plus que l'article lui-même, qui est très bien. Mais le dessin, alors là, je crois qu'il dit tout.
Exactement. Comme je vous disais tout à l'heure, avec ça, je suis couvert des deux côtés, c'est très bien. Donc, il n'y a pas de sarkoïsation de ce journal. Il y a, comme je vous ai dit, un pari qui était un pari de se faire connaître, parce que quand on lance quelque chose comme ça, dans l'inconnu, or, il faut que vous sachiez une chose, c'est que lancer un journal quand on n'a pas les moyens, je reviens encore non pas mon dada, mais quand on n'a pas de moyens, comment peut-on se faire connaître? Et donc, voilà, oui, il y a eu cette une, d'une part, et puis... Ce que je vous disais aussi, rapport à ces gens qui collaborent à Service littéraire, beaucoup d'amis. Ce qui fait que ce journal a été annoncé chez Poivre d'Arvor, il a été annoncé chez Marie Drucker, à RTL, Europe numéro 1, France Inter, France Info. Enfin, je ne veux pas me faire de la pub, mais c'est pour vous dire que les réseaux... c'est pour vous dire que les réseaux d'amitié, c'est parfois plus important, c'est même plus important que les réseaux d'intérêt. J'en reviens. C'est, là aussi, là c'est vrai que c'est un dada. Et ce journal est un journal d'amis. Ouais.
Alors, François Cereza, vous avez intitulé votre journal « Service littéraire ». C'est un beau titre. Mais vous le définissez comme un journal d'écrivains fait par des écrivains dont la vocation serait en quelque sorte de rendre service au lecteur en infligeant quelques sévices à certains auteurs. Alors, question simple, est-ce que, en définitive, les écrivains sont vraiment les mieux placés pour rendre service à la littérature en sévissant contre leurs confrères ?
Écoutez, je vais vous répondre. Je vous ai déjà dit tout à l'heure que les écrivains, parfois, rendent sévice aux autres écrivains. Il y a une nouvelle rubrique dans le numéro 2 qui s'appelle « Les écrivains ont la dent dure ». Regardez ce que dit Flaubert de Lamartine. Moi, je vais vous dire ce que dit Léo Tau sur Audiberti. Ah, celui-là, non, par exemple. J'ai horreur des chinoiseries, des tarabiscotages littéraires. Gide sur Balzac. Tout comme Hugo, Balzac a trop confiance en son génie, souvent pressé par le besoin, sans doute, il bâcle. Vous vous rendez compte quand même un petit peu ? Je veux dire, on parle de Balzac, qui est reconnu par tout le monde comme une sorte de génie. Sainte-Beuve sur Barbey d'Aurevilly. Cet homme est une infection de goût et des mœurs. Je veux dire, en plus, ce sont deux contemporains. C'est pas... vous voyez, c'est, je ne veux pas dire que je suis en train de justifier nos turpitudes, mais je dis que nous, on parle d'écrivains qu'on n'aime pas. Par exemple, dans le numéro 2, il y a une jeune femme qui s'appelle Sylvie Caster qui a écrit de très beaux livres, qui a travaillé à Charlie Hebdo et au Canard Enchaîné, et qui nous dit ce qu'elle pense de Monsieur Eric Emmanuel Schmitt. Bon, elle n'en pense pas du bien. Ça fait du bien, parce que je peux vous dire qu'en général, dans la presse, Monsieur Eric Emmanuel Schmitt, c'est un grand auteur de théâtre, c'est comme Marie, une fille qui s'appelle Amanda Ster, qui a été la fiancée ou la femme de M. Patrick Boel, raison sans doute pour laquelle on a beaucoup parlé d'elle, mais ça ne vaut pas un clou ce qu'elle fait. Donc il faut... Et puis en plus de ça, ce n'est pas toujours écrit en français. Alors, vous voyez, c'est... Là, par exemple, Marcel Aimé sur Baudelaire réunit en lui, poussé à l'extrême, toutes les caractéristiques du romantisme. Le flou, le mou, le ténébreux, le narcissisme, les infinis faciles. Et des citations comme ça, vous en avez des centaines. Donc d'accord. Ça, c'est une réponse directe à la question que vous
absolument
me posez.
Absolument directe. Et puisque vous parlez de votre numéro 2, je ne résiste pas à l'envie de lire la une du numéro 2. Robe vraiment grillée. Je n'en dirai pas plus. Je laisse, puisqu'il faut lire. D'abord,
il s'agit évidemment de Monsieur Rob Grier et vous d'ailleurs, voilà. Et le dessin qui est encore un dessin de Viaz, qui est assez amusant parce qu'on voit la tête de vieux satyre de Rob Grier qui prend de la fumée dans la figure et cette fumée provient d'un fume-cigarette qu'on devine être évidemment celui de Monsieur Philippe Soler, ce qui n'apparaît pas sur le dessin.
Bien, j'en dirai pas plus donc sur ce numéro 2 et j'en viens donc maintenant, si vous le voulez bien, à ma dernière question qui ne vous surprendra pas plus que les autres. Parce que ce qui frappe dans votre revue et ce qui la rend, je dois dire, particulièrement sympathique ici à Canal Académie, c'est, disons, une certaine forme de complicité avec l'Académie française, ou du moins avec certains académiciens, dont notamment, mais pas seulement, Maurice Druon. Ce qui surprend, car cela contribue en quelque sorte à briser, fort heureusement, l'image qu'on peut avoir parfois de l'Académie, un peu conventionnelle, un peu académique, et qui confirme, au contraire, l'Académie dans son rôle, que j'aime beaucoup personnellement souligner, car cela s'apparente en fait au rôle des revues, qui est le rôle de force collective, d'engagement au service de la littérature d'expression française. Alors, ma question est simple. Comment, François Cereza, est-ce que vous ressentez cette complicité avec l'Académie française ?
Ben, je la ressens. Je reviens à cette amitié qui avait été faite avec Louis Nucera, parce que figurez-vous que c'est Louis Nucera qui m'avait présenté Maurice Druon, et qu'ensuite, grâce à Alphonse Boudard, j'avais rencontré Michel Déon. Donc, vous voyez, tout ça, c'est un petit peu l'Académie française, avec des gens dont, évidemment, j'appréciais les livres, et qui ont un petit peu apprécié les miens. En plus, il se trouve qu'il y a une filiation assez étrange avec Maurice Druon. Figurez-vous que dans tous les métiers que j'ai faits, puisque vous les énumériez, pas tout à fait d'ailleurs, au début de cette émission, j'ai été assistant d'un monsieur qui s'appelait Claude Barma. Claude Barma, à la télévision, avait fait Belphégor, Le Chevalier de Maison Rouge et Les Rois Maudits.
Ah,
première version avec Jean Piat. Et moi, je travaillais avec Claude Barma. J'étais factotum, si je puis dire. C'est-à-dire que je répondais au téléphone et j'allais chercher dans sa loge, ce qui me faisait énormément plaisir, Madame Geneviève Cazil, sociétaire de la Comédie française, non pas de l'Académie française, qui était très mignonne, très accorte et en plus très agréable. Donc, vous voyez, ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça, c'est le début du voyage au bout de la nuit. Et donc, je me suis retrouvé tout de suite... je dirais, en prise d'amitié avec Maurice Druon. Ensuite, le passage s'est fait par Louis Nucera. Et puis, j'ai demandé à Maurice de faire le premier article, parce qu'il a une... Maurice Druon, avec l'âge qu'il a une, une passion et une jeunesse, faire un pléonasme de jeune homme. Son style est vraiment d'une pureté terrible. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que nous, à Service littéraire, même si on a la dent un peu dure, même si on est un petit peu teigneux, comme ça, d'apparence, même si on se moque beaucoup, parce qu'en fait, on se moque beaucoup, la véritable méchanceté, c'est stérile. Donc,
L'article sur Mazarine Pinjot...
Mazarine Pinjot, c'est M. Christian Millau qui l'a fait, je trouve, très gentiment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il parle de Mazarine Pinjot sans en parler.
Absolument.
C'est-à-dire qu'il dit simplement qu'il est allé dans un restaurant et qu'on proposait du pied de cochon. Donc voilà. Et qu'est-ce que l'on voulait, qu'est-ce que l'on veut un petit peu en faisant écrire, et nous en écrivant dans Service littéraire, c'est-à-dire les écrivains, une défense et une illustration un petit peu de la langue française. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui correspond un petit peu avec les objectifs de l'Académie française.
Tout à fait, tout à fait. Et Maurice Druon, inusable.
Voilà.
Il est inusable, inusable. Et il parle de l'inusable roman.
Voilà. Et dans le deuxième qui sort donc jeudi, c'est Michel Déon qui...
pourquoi le roman ?
Voilà, qui parle du roman, pourquoi le roman, et qui l'exprime avec ses souvenirs d'adolescents, d'enfants et d'hommes qui a toujours aimé le roman.
Voilà, François Cereza. Merci infiniment de cet entretien et je voudrais souhaiter longue vie à Service littéraire.
Eh bien, merci à vous. Vous êtes gentil de m'avoir reçu. Merci.